Chapitre 3. Lise se remettait peu à peu, commençait à marcher, et s'inquiétait du changement qui se faisait en son mari et qu'elle ne comprenait pas. Varvara Alexeyevna partit pour un certain temps, et il ne restait plus chez eux que l'oncle et Marie Pavlovna. Eugène se trouvait en cet état de demi-folie quand arrivèrent, comme elle arrive souvent après les orages de juin, de longues pluies qui durèrent plusieurs jours. Ces pluies bouleversèrent tous les travaux. On ne pouvait même pas ramasser le fumier à cause de l'humidité et de la boue. Les paysans restaient dans leur demeure. Les bergers avaient beaucoup de peine à ramener leurs troupeaux dans les étables. Des vaches et des moutons s'enfuirent dans différents cours. Et des femmes, couvertes de châles, clapotaient pieds nus dans la boue à la recherche des vaches en fuite. Des cours d'eau se formaient sur les routes. Toutes les feuilles, toute l'herbe était trempée, les ruisseaux et les mares débordaient. Eugène était à la maison avec sa femme, qui ce jour était particulièrement ennuyée. Plusieurs fois, elle avait interrogé son mari sur la cause de son changement d'humeur, et chaque fois, il lui avait répondu avec dépit qu'il n'avait rien. Elle avait cessé de l'interroger, mais elle était triste. Ils étaient assis au salon après le déjeuner. L'oncle racontait pour la centième fois des histoires de son invention sur ses aventures mondaines. Lise tricotait un gilet et soupirait, se plaignant du mauvais temps et du mal de rein. L'oncle lui conseillait de se coucher et lui-même demandait du vin. À la maison, Eugène s'ennuyait terriblement. Tout y était misérable et ennuyeux. Il fumait et lisait un livre sans rien comprendre. Oh oui, il faut aller voir ce qui se passe, se dit-il. Il se leva pour sortir. Prends ton parapluie. Mais non, j'ai mon paletot de cuir et je ne vais pas loin. Il mit ses bottes, son veston de cuir et partit à l'usine. Mais il n'avait pas fait 20 pas qu'elle parut à sa rencontre, sa jupe relevée au-dessus de ses mollets blancs. Elle marchait en retenant avec ses mains le châle qui lui couvrait la tête et les épaules. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il au premier abord sans la reconnaître. Quand il l'a reconnue, il était déjà tard. Elle s'arrêta et en souriant le regarda longuement. « Je cherche un petit veau. Où allez-vous par ce mauvais temps ?» lui demanda-t-elle, comme s'il se voyait chaque jour. « Viens dans la cabane, » dit-il tout à coup, sans savoir comment, et comme si quelqu'un d'autre eût prononcé ses paroles. Elle fit des yeux un signe d'acquiescement et s'en alla dans le jardin vers la cabane. Lui poursuivit son chemin avec l'intention de contourner le massif de lilas et d'aller la rejoindre. « Monsieur » cria-t-on tout à coup derrière lui, « Madame vous demande de venir pour un moment. » C'était Michel, leur domestique. « Mon Dieu, tu me sauves pour la deuxième fois !» pensa Eugène. Et aussitôt, il retourna à la maison. Lise voulait lui rappeler qu'il avait promis une potion à une femme malade, et elle le priait de la prendre. Pendant qu'on cherchait et préparait cette potion, une quinzaine de minutes s'écoulèrent. Ensuite, quand il sortit, il n'osa pas aller directement à la cabane dans la crainte d'être aperçu de la maison. Mais dès qu'il fut hors de vue, il fit un détour et s'y dirigea. Dans son imagination, il la voyait déjà au milieu de la cabane, souriant gaiement. Mais elle n'y était pas. Et rien n'indiquait qu'elle y fût venue. Déjà, il pensait qu'elle n'était pas venue, qu'elle n'avait pas entendu ou compris ses paroles, qu'il avait murmurées entre ses lèvres de peur qu'elle ne les entendît, ou que peut-être elle n'avait pas voulu venir. Et pourquoi se jetterait-elle à mon cou? Pensa-t-il. Elle a son mari, mais c'est moi seul qui suis misérable à ce point. J'ai une femme bonne et je cours après une autre. Ainsi pensait-il, assis dans la cabane où un endroit l'eau coulait. Oh, quel bonheur c'eût été si elle était venue, seule ici pendant cette pluie, la posséder au moins une fois, et après, advienne que pourra. Ah oui, se souvint-il, mais si elle est venue, on peut trouver des traces. Il regarda le sol à l'endroit d'un petit sentier sans herbe, et il remarqua la trace fraîche d'un pied nu. Oui, elle était venue. Ah, maintenant c'est fini. N'importe où que je la rencontrerai, j'irai à elle. Oh, j'irai chez elle la nuit. Longtemps il resta assis dans la cabane et en sortit tourmenté et exténué. Il porta la potion, rentra à la maison et se coucha dans sa chambre en attendant le dîner. Avant le dîner, Lise vint vers lui, essayant toujours de trouver quelle pouvait être la cause de son mécontentement. Elle lui dit qu'ayant peur qu'il ne lui soit désagréable de partir à Moscou, où l'on voulait l'emmener pour ses couches, elle avait résolu de rester ici et que pour rien au monde elle n'irait à Moscou. Il savait combien elle avait peur de l'accouchement et sa crainte de ne pas mettre au monde un bel enfant, et malgré lui, il s'attendrit en constatant avec quelle facilité elle sacrifiait tout pour amour pour lui. Tout était si bon, si joyeux, si pur dans la maison, et dans son âme il y avait tant de boue, de lâcheté, d'horreur. Toute la soirée, Eugène souffrit à penser que, malgré son sincère dégoût pour sa faiblesse, et malgré sa ferme intention d'en finir, demain ce serait la même chose. Non, mais c'est impossible, se disait-il en marchant de long en large dans sa chambre. Il doit exister un moyen quelconque contre cela, mon Dieu, mais que faire? Quelqu'un frappa à la porte d'une façon inaccoutumée. Il savait que c'était son oncle. Entrez, me dit-il. L'oncle venait comme ambassadeur nommé par soi-même pour lui parler de Lise. Ben, sais-tu qu'en effet, j'ai remarqué en toi un changement, et je comprends que cela tourmente ta femme. Évidemment, c'est pénible pour toi d'abandonner cette belle affaire que tu as commencée, mais que veux-tu? Je te conseillerais de partir. Vous seriez plus tranquilles tous les deux. Mais sais-tu, je te conseillerais de partir en Crimée. Le climat y est très beau. Il y a là-bas un très bon accoucheur et vous y trouverez juste la saison du raisin. Oncle, fit tout à coup Eugène, pourrez-vous garder mon secret, un secret honteux, terrible pour moi? Ben, que dis-tu? Peux-tu douter de moi? Oncle, vous pouvez m'aider, et non seulement m'aider, mais me sauver, dit Eugène. Et l'idée de dévoiler son secret à son oncle, qu'il n'estimait pas, la pensée qu'il allait se montrer à lui sous le plus vilain jour, s'humilier devant lui, lui était agréable. Il se sentait lâche, coupable, et voulait se punir. « Parle, mon ami, tu sais combien je t'aime, » dit l'oncle, visiblement très content de cette circonstance, qu'il y avait un secret honteux, et qu'il en serait le confident, et qu'il pourrait être utile. Avant tout, je dois vous dire que je suis une crapule, une canaille, un misérable lâche. « Que dis-tu ? » fit l'oncle en enflant son gosier. « Mais comment ne suis-je pas un misérable quand moi, mari de Lise ? Mais de Lise, il faut connaître sa pureté et son affection. Quand moi, son mari, je veux la tromper avec une paysanne. » C'est-à-dire, pourquoi veux-tu? Tu l'as pas encore trahi. Oh, c'est tout comme si je l'avais trahi. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas de ma faute. J'étais prêt. On m'en a empêché, sans quoi maintenant... Maintenant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais voyons, explique-toi. Eh bien, voilà. Quand j'étais célibataire, j'ai fait la sottise d'avoir des relations avec une femme de notre village. C'est-à-dire, nous nous rencontrions dans le bois, dans les champs. Est-elle jolie? Demanda l'oncle. À cette question, Eugène fronça les sourcils, mais il avait tellement besoin d'aide qu'il eut l'air de ne pas avoir entendu, et continua. Eh bien, je pensais que c'était sans importance, qu'une fois la rupture, tout serait terminé. Et en effet, j'ai rompu avant mon mariage, et pendant presque une année, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas ainsi pas du tout pensé à elle. Je l'étais étonné de s'entendre décrire ainsi son état d'âme. Mais tout d'un coup, je ne sais même pas comment, vraiment. Je crois parfois à la fascination. Je l'ai revu et le ver s'est glissé dans mon cœur et le ronge. Je m'injurie, je comprends toute l'horreur de mon acte, c'est-à-dire de celui que je suis prêt à commettre à la première occasion. Et malgré cela, je continue à chercher cette occasion. Et jusqu'à présent, c'est Dieu seul qui m'a sauvé. Hier, j'allais la rejoindre quand Lise m'a appelé. Comment, pendant la pluie? Oui, moi je suis exténué, oncle, et j'ai résolu de me confesser à vous et de vous demander aide. Mais, sans doute, dans ton village, c'est pas bien, on le saura. Je comprends que Lise est faible, il faut l'aménager. Mais pourquoi, dans ton domaine? De nouveau, Eugène tâchait de ne pas écouter ce que disait son oncle et d'arriver au fond même de l'affaire. Mais sauvez-moi de moi-même, voilà ce que je vous demande. Aujourd'hui, c'est un hasard qui m'a empêché de succomber, mais maintenant elle sait aussi. Ne me laissez jamais seul. Oui, dit l'oncle, mais es-tu donc si amoureux? Oh, ce n'est pas du tout cela, non. Non, c'est une force quelconque qui m'a saisi et me tient. Je ne sais que faire. Peut-être que quand je serai plus fort, alors... Eh bien, la voilà, l'aide, dit l'oncle. Allons, tous en Crimée. Oui, oui, allons. Et en attendant, je resterai avec vous, nous causerons. Le fait d'avoir confié son secret à son oncle, et principalement les tourments de la honte qu'il endura après ce jour de pluie, remirent Eugène. Le départ pour Yalta fut fixé à la semaine suivante. Pendant cette semaine, Eugène alla en ville pour se procurer l'argent du voyage, donna des ordres pour la maison et au bureau pour l'exploitation, et de nouveau redevint gai et confiant envers sa femme. Il renaissait moralement. Il partit avec sa femme en Crimée, sans avoir revu une seule fois Stepanida depuis le jour de la pluie. Ils passèrent 2 mois délicieusement. Eugène avait tant de nouvelles impressions que tout le passé lui semblait disparu à jamais de sa mémoire. Ils rencontrèrent en Crimée d'anciennes connaissances, se lièrent plus intimement avec elles et se créèrent aussi de nouvelles relations. La vie là-bas était pour Eugène une fête continuelle et en outre était pour lui très instructive et très utile. Ils se lièrent avec l'ancien maréchal de la noblesse de leur province, un homme libéral, intelligent, qui prit en affection Eugène et tâcha de se rattacher. À la fin d'août, Lise mit au monde une jolie petite fille, bien portante, et l'accouchement fut tout à fait inattendu et très facile. En septembre, les Irtenieff retournèrent chez eux, ramenant en plus l'enfant et la nourrice, car Lise n'avait pas pu nourrir. Tout à fait débarrassé des tourments anciens, Eugène retournait chez lui complètement heureux comme un nouvel homme. Après être passé par les transes qu'éprouvent les maris pendant les couches de leurs femmes, il se mit à aimer encore plus fortement la sienne. Ce qu'il éprouvait pour l'enfant quand il le prenait dans ses bras était un sentiment tout à fait nouveau, très agréable, avec la sensation d'un chatouillement. Ce qui encore était nouveau dans sa vie, c'était qu'à ses occupations dans sa propriété se joignait un nouvel intérêt. En effet, grâce à son intimité avec Doumchin, l'ancien maréchal de la noblesse, il s'intéressait maintenant aux Zemsvor, à la fois par vanité et à ce qu'il pensait par devoir. En octobre devait être convoquée l'Assemblée générale extraordinaire dans laquelle devait avoir lieu son élection. Après son retour de Crimée, une fois il alla en ville et une autre fois chez Doumchin. Il ne pensait plus aux souffrances de la honte et de la lutte et avait même de la difficulté à se les imaginer. Cela lui semblait une sorte d'accès de folie dont il aurait été atteint. Il se sentait affranchi jusqu'à tel point qu'il ne craignit même pas de se renseigner sur elle à la première occasion, une fois qu'il se trouva seul avec son intendant. Comme il lui en avait déjà parlé, il n'eut pas honte de le questionner. « Eh bien, que fait Pechnikov, Sidor? Il n'est toujours pas à la maison ?» demanda-t-il. « Non, toujours en ville. Et sa femme ? Oh bon, elle ne propre à rien. Elle fait maintenant la vie avec Zinoveï. Oh, elle est complètement perdue. »« Eh bien, c'est bon, » pensa Eugène. « Comme c'est bizarre maintenant, cela m'est tout à fait égal. Comme j'ai changé !» Tout ce qu'avait désiré Eugène arrivait. La propriété lui restait. L'usine allait bien, la récolte de betteraves était splendide et l'on pouvait compter sur un bon revenu. Sa femme avait accouché heureusement, la belle-mère était partie et il était élu à l'unanimité. Après l'élection, Eugène retourna chez lui. On le félicita. Il tint à remercier et au dîner, il but 5 coupes de champagne. Une organisation de vie tout à fait nouvelle se présentait à lui. Il rentrait à la maison en réfléchissant à ses plans. On était en plein été et la route était belle, le soleil clair. En s'approchant de chez lui, Eugène pensait comment, grâce à cette élection, il allait occuper parmi le peuple la situation qu'il avait toujours souhaité d'avoir, c'est-à-dire qu'il pourrait le servir non seulement par les produits que donne le travail, mais par l'influence directe. Il se représentait comment, d'ici 3 ans, on le jugerait, sa femme et les autres, les paysans, celui-ci par exemple, pensa-t-il, en traversant le village et regardant un paysan et une femme qui venait à sa rencontre portant un seau d'eau. Ils s'arrêtèrent pour laisser passer le Tarantas. Le paysan était le vieux Pechnikov et sa femme Stepanida. Eugène la regarda, la reconnut et avec joie sentit qu'il restait tout à fait calme. Elle était aussi attirante, mais cela ne le troublait nullement. Il arriva à la maison. Sa femme l'attendait sur le perron. La soirée était merveilleuse. « Eh bien, peut-on féliciter ?» demanda l'oncle. « Oui, je suis élu. »« Oh, c'est magnifique, il faut maintenant arroser. » Le lendemain matin, Eugène alla dans la propriété qu'il avait un peu négligée. Dans le hameau fonctionnaient de nouvelles machines à battre le blé. Pour examiner le travail, Eugène circulait parmi les femmes, tâchant de ne pas faire attention à elle. Mais, malgré ses efforts, 2 fois, il remarqua les yeux noirs et le fichu rouge de Stepanida qui apportait de la paille. Deux fois il la regarda la dérobée, et de nouveau ressentit quelque chose, mais quoi, il ne pouvait s'en rendre compte. Mais le lendemain, quand il retourna de nouveau au hameau sans nécessité, il resta 2 heures, ne cessant de caresser du regard l'image connue et belle de la jeune femme. Il sentit qu'il était perdu, perdu sans retour. De nouveau les souffrances, de nouveau toute cette horreur, et il n'y avait plus de salut. Ce qu'il craignait arriva. Le lendemain, le soir, ne sachant lui-même comment, il se trouva près de la haie de sa cour, en face de la grange au foin, où une fois en automne, ils avaient eu un rendez-vous. Comme s'il était venu en se promenant, il s'arrêta là et se mit à fumer une cigarette. Une voisine l'aperçut et, en retournant dans le même endroit, il l'entendit qui disait à quelqu'un « Mais va, il t'attend depuis 1 heure, va donc, saute !» Il ne pouvait plus rebrousser chemin parce qu'un paysan allait à sa rencontre, mais il aperçut une femme, elle, qui courait du côté de la grange. Et la vieille histoire recommença, mais avec une force décuplée. Le soir, il pensait des choses terribles. Il pensait que sa vie était vide, ennuyeuse, et que la vraie vie était là-bas, avec cette femme robuste, énergique, toujours gaie. La prendre, la mettre dans une voiture ou dans le train, et disparaître dans la steppe ou en Amérique. Et différentes idées semblables lui venaient en tête. Quand il entra dans le salon, tout lui parut bizarre, non naturel. Le matin encore, il s'était levé courageux, résolu d'oublier, de ne pas se permettre de penser. Mais sans même le remarquer, toute la matinée indifférente à son travail, il s'était efforcé de s'en délivrer. Ce qui, auparavant, lui semblait important, le réjouissait maintenant, lui apparaissait insignifiant. Et inconsciemment, il tâchait de se débarrasser de sa besogne. Il lui semblait nécessaire de se délivrer du souci des affaires pour bien réfléchir à tout. Et il s'en déchargeait et restait seul. Mais aussitôt qu'il demeurait seul, il allait errer dans le jardin ou dans le bois. Et tous ces lieux étaient souillés de souvenirs qui l'accaparaient tout entier. Il marchait dans le jardin et se disait qu'il faudrait décider quelque chose, mais il ne réfléchissait à rien et follement, inconsciemment, l'attendait. Il espérait que, par un miracle quelconque, elle sentirait combien il la désirait. Il viendrait ici ou ailleurs où personne ne les verrait, que dans la nuit, quand il n'y aurait pas de lune ni personne, quand une pareille nuit elle viendrait et qu'il posséderait son corps. Oui, voilà, se disait-il, oui. Voilà, pour la santé, je me suis amusé avec une femme saine, bien portante. Non, évidemment, on ne peut pas jouer ce jeu avec elle. Je pensais l'avoir prise et c'est elle qui m'a pris et qui ne me lâche pas. Je me croyais libre et je ne l'étais pas. Je me suis trompé sur moi-même quand je me suis marié. Tout était stupidité et mensonge. Dès l'instant que je l'ai possédée, j'ai éprouvé un sentiment nouveau, le vrai sentiment du mari. Oui, je dois vivre avec elle. Quelle sottise, vais-je penser? Mais cela ne se peut pas, s'écria-t-il tout à coup. Il faut clairement bien réfléchir à tout. Il se rendit dans les champs et se mit à réfléchir. Oui, pour moi, il y a 2 vies possibles. L'une, celle que j'ai commencée avec Lise, les fonctions publiques, l'exploitation, l'enfant, le respect des gens. Pour continuer cette vie, il faut que Stepanida ne soit plus. Il faut l'éloigner, comme je le disais, ou de quelque façon qu'elle disparaisse. Et l'autre vie est celle-ci, l'enlever à son mari, lui donner de l'argent, braver la honte et vivre avec elle. Mais alors, il faut que ni Lise ni Mimi, l'enfant, n'existent. Non, pourquoi ? L'enfant ne le gêne pas. Mais il faut que Lise disparaisse, qu'elle parte, sache, me maudisse, mais parte. Qu'elle sache que je l'ai délaissée pour une paysanne, que je suis un trompeur, un lâche. Oh non, c'est trop horrible. Non, cela ne se peut pas. Oui, mais cela s'arrangera peut-être d'une autre façon. Lise peut tomber malade, mourir. Elle morte, alors tout ira bien. Bien, misérable, non! Si l'une d'elles doit mourir, plutôt l'autre. Si Stepanida mourait, ce serait bien. Oui, voilà comment on empoisonne ou tue les femmes, les maîtresses. Prendre un revolver, le faire venir, et au lieu des baisers, pan dans la poitrine, et tout est terminé. C'est le diable, oui, vraiment le diable. C'est contre ma volonté qu'elle a pris possession de moi. La tuer, eh oui, il n'y a que deux issues. La tuer ou tuer ma femme. Car vivre ainsi, c'est impossible, impossible. Il faut réfléchir et tout envisager. Laisser les choses telles qu'elles sont, alors qu'adviendra-t-il ? Il adviendra que je me promettrai de nouveau de ne plus la voir, de renoncer à elle, mais je le dirai seulement, et le soir, je l'attendrai, et elle le saura et viendra. Ou les gens sauront et le diront à ma femme, ou moi-même, je le lui dirai, parce que je ne puis pas mentir d'y vivre ainsi, je ne le puis pas. Tout se saura, tous apprendront, et par achat le forgeront. Eh bien, après tout, est-ce qu'on ne peut pas vivre ainsi ? Ah non, non, on ne peut pas. Il n'y a que deux issues, la tuer ou tuer ma femme. Ou encore, oh oui, il y en a une troisième. Me tuer, prononça-t-il tout bas. Et tout d'un coup, un frisson courut sur sa peau. Oui, se suicider. Et alors, point de besoin de les tuer. Il frissonnait d'horreur, précisément parce qu'il sentait que cette solution était la seule possible. J'ai un revolver. Est-ce que je vais me tuer ? Ah, voilà une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Comme ce sera étrange. Il rentra à la maison, dans sa chambre, et aussitôt ouvrit le tiroir dans lequel était son revolver. Mais avant qu'il eût eu le temps de le sortir de son étui, sa femme entra. Il jeta un journal sur le revolver. « Toujours la même chose ?» dit-elle inquiète en le regardant. « Mais quoi ? Quelle même chose ?» la même expression terrible que tu as eue autrefois, quand tu n'as pas voulu me dire « Mon chéri, mais dis-moi ce que tu as. Je vois que tu souffres. Parle, cela te soulagera. N'importe quoi plutôt que tes souffrances. Je sais que cela ne peut être rien de mauvais. Oh, tu crois ? Allez, parle, parle, je ne te lâcherai pas. » Il eut un sourire navré. Parler, oh non, c'est impossible. Du reste, il n'y a rien à dire. Peut-être lui eut-il tout dit, mais à ce moment-là, nourrice entra demander si l'on couvait aller se promener. Lise sortit pour habiller l'enfant. Bon, alors tu me le diras, je vais revenir tout de suite. Oui, peut-être. Jamais elle ne put oublier le sourire douloureux avec lequel il prononça ces mots. Elle sortit, hâtivement, mais avec l'allure d'un malfaiteur. Il prit l'étui et sortit le revolver. Il est chargé. Oh oui, mais depuis longtemps. Une balle a déjà été tirée. Eh bien, advienne que pourra. Il appuya le revolver contre sa tempe et hésita un moment. Mais aussitôt, se rappelant Stepanida, sa résolution de ne pas la voir, la lutte, la tentation, la chute, de nouveau la lutte, il tressaillit d'horreur. Non, plutôt cela. Et il pressa la gâchette. Quand Lise accourut dans la chambre, elle eut à peine le temps de descendre du balcon. Il était étendu sur le ventre, par terre. Un sang noir, épais, coulait abondamment de la blessure et son corps tressaillait encore. Une enquête fut faite. Personne ne pouvait s'expliquer la raison du suicide. À l'oncle, il ne vint nullement en tête qu'il pouvait avoir quelque chose de commun avec l'aveu que lui avait fait Eugène 2 mois auparavant. Varvara Alexeïevna affirmait qu'elle l'avait toujours prédit. Oh, vous voyez cela quand ils discutaient. Ni Lise ni Marie Pavlovna ne pouvaient comprendre comment cela était arrivé, et surtout ne pouvaient se ranger à l'opinion des docteurs qui prétendaient qu'il était psychopathe, demi-fou. Elle ne voulait point admettre cela, car elle savait qu'il était beaucoup plus sensé que la majorité des hommes qu'elle connaissait. Et en effet, si Eugène Irtenieff était un malade psychique, alors tous les hommes le sont également. Et parmi eux, les plus malades sont ceux qui voient les indices de la folie chez les autres et ne les voient point en eux-mêmes. Yesnaïa Poïlana, 19 novembre 1889.